France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, soyez les bienvenus sur France Musique dans nos programmes d'été. Un réveil en douceur pour retrouver dans un instant Musique Matin et notre cher Gabriel Oliver Aguillon. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon, Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous, mercredi 11 août, bienvenue dans notre Musique Matin. Je suis très heureuse avec toute l'équipe d'être en votre compagnie, entourée de concerts, de beaux disques, d'invités de renom, de cadeaux et puis évidemment d'actualités musicales. À 7h40, notre revue de presse et un reportage de Marie Jiquel, comment créer un festival par temps de pandémie. À 7h50, le jeu de l'été. Comme chaque matin, tenter de gagner des disques. Et tout à l'heure, ce sera celui de la Chapelle Harmonique, dirigée par Valentin Tournet, les Indes Galantes de Rameau. À 8h, le journal de Lise Lacombe. À 8h10, notre Tour de France des festivals, direction le Pays Basque, ce matin, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour le festival classique à Guétari. À 8h25, place à la création, ce matin, un compositeur né en 1977, Jonathan Pontier, et à 8h30, nous serons ravis de recevoir le pianiste Théo Fouchonneret pour son prochain concert à la Rock d'Anteron. Je vous souhaite une très belle matinée à notre écoute, il est 7h31.
Thank you.
Le prélude de la suite pour violoncelle numéro 6 en ré majeur, BWV 1012 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Patrick Langot. Violoncelliste Patrick Langot qui sera en concert pour jouer le programme de son disque Préludio, où il y a donc Jean-Sébastien Bach, mais également Benoît Menut, Gabrielli ou encore Sofia Goubaï-Doulina. Un concert jeudi prochain, le 19 août, à 20h30, au jeudi de musique à Crozon, dans le Finistère. Après la Bretagne, la Normandie tout de suite avec ce soir le dernier jour du festival Août Musical à Deauville, concert à 20h intitulé Jérusalem, donné dans le cadre de l'exposition aux franciscaines sur les chemins de paradis, donné par la compagnie La Tempête, dirigée par Simon-Pierre Bestion. Un programme très varié, de Rachmaninov aux chants mozarabes, à des cantigas en galaïco-portugais, des chants bulgares traditionnels ou même des chants en hébreu. C'est ce soir donc dans le cadre du festival Août Musical de Deauville, en partenariat avec France Musique, évidemment. Les voici, ces musiciens, dans l'histoire de la résurrection d'Heinrich Schütz, avec ce chantre byzantin, la voix de Georges Abdallah.
Und aber mal sprach zu
d'un chantre byzantin pour cet évangéliste de l'histoire de la résurrection d'Heinrich Schütz, interprété par Georges Abdallah, donc accompagné par la compagnie La Tempête, dirigée par Simon-Pierre Bestion, une œuvre de 1623, et des musiciens donc en concert ce soir au festival Août Musical de Deauville. Eh bien, à 7h39, c'est l'heure de prendre un café et d'ouvrir les journaux.
C'est l'été sur France Musique.
Eh bien oui, 7h39, tout de suite notre revue de presse. L'Orchestre symphonique de Baltimore licencie une flûtiste qui a partagé des théories complotistes sur le Covid. C'est un article à lire dans Diapason Magazine. La musicienne Emily Scala, qui a partagé des informations erronées sur les médias sociaux, a aussi négligé de se soumettre au protocole sanitaire en vigueur. Elle faisait aussi partie de ceux qui contestaient le résultat de l'élection présidentielle américaine l'année dernière. Emily Scala, 59 ans, première flûtiste de l'Orchestre de Baltimore depuis plus de 30 ans, avait publié des messages mettant en doute l'efficacité des vaccins et des masques. Dans d'autres publications sur les réseaux sociaux, elle partageait également des théories laissant entendre que le coronavirus était responsable de la pandémie et aurait été créé dans un laboratoire de Caroline du Nord. Suffisant pour mener à un licenciement ? Dans un communiqué, l'orchestre indique qu'il renvoie Madame Scala parce qu'elle a violé à plusieurs reprises le règlement. Retour en France, un article du journal Le Monde avec 100% rock, une nouvelle ligne pour relancer le Bataclan. La ville de Paris va revenir à une programmation formation simple dans l'espoir de ramener à l'équilibre financier une salle meurtrie par les attentats. La nouvelle stratégie choisie pour le Bataclan est aussi simple que certaines lignes de basse. En aura-t-elle l'efficacité? C'est ce qu'espère Anne Hidalgo, son équipe et les dirigeants du géant américain AEG, numéro 2 mondial dans la gestion des salles de concert. Ils ont signé ensemble en juillet l'achat que le groupe Lagardère avait mis en vente l'an dernier, l'achat de la salle historique du boulevard Voltaire à Paris. Alors, comment relancer le Bataclan? D'abord en affirmant sa vocation, celle d'une salle de spectacle comme c'est le cas depuis son inauguration en 1865, c'est-à-dire renouer avec les grandes heures rock des années 75 à 2000 lorsque Lou Reed, Téléphone, Prince ou encore Marilyn Manson enflammaient le Bataclan. Il doit laisser la chanson française et les musiques urbaines à ses concurrents pour s'imposer comme la grande salle mythique du rock en France et ainsi fidéliser le public et mieux remplir la salle. Et puis, Les Échos ce matin nous apprend que le 25 septembre, si le virus ne trouble pas la fête, 20 000 fans munis de leur passe sanitaire seront accueillis au Champ de Mars à Paris pour un concert caritatif exceptionnel, le Global Citizen Live, organisé par le Live Nation France. Pour la première fois, c'est Paris qui recevra ce spectacle qui sera donné et retransmis donc en direct également à New York et Lagos et partout dans le monde pendant 24 heures sur les télés, radios et autres plateformes. L'ONG aux 10 millions de militants veut sensibiliser dirigeants, entreprises, fondations publiques à la lutte contre la pauvreté, la faim et la pandémie. Et c'est une sorte de mécénat de compétences pour nous, nous disent-ils. Les artistes ne prennent pas de cachet non plus pour ce concert. Nous recherchons des partenaires sponsors pour payer les techniciens et la logistique. Rendez-vous donc vers la Tour Eiffel le 25 septembre avec les musiques de Ed Sheeran, Billie Eilish ou encore Metallica, DJ Snake, Black Eyed Peas ou encore Christine and the Queens et Angélique Kidjo. Ce soir, c'est la première date du festival Novice Concert Passion, un rendez-vous créé cette année par la pianiste Roberte Mamou. Un pari fou que de créer un événement culturel programmé cet été entre la troisième vague et la quatrième. Alors que certaines grosses institutions comme le Hellfest ou Solidays ont annulé leurs éditions cette année, eh bien certains musiciens ou passionnés de musique en tout cas ont tenté l'aventure et ne regrettent pas. Ils se sont confiés à Marie Jiquel.
Monter un festival, l'été le plus incertain.
Je vais vous dire d'abord, j'aime le danger. Donc je suis quelqu'un qui adore aller au-devant des choses difficiles.
N'a pas effrayé Roberte Mamou, pianiste et désormais fondatrice de Concert Passion. Après une année à se morfondre sans concert, elle rattrape sa boulimie de la scène avec ce festival qui réunit une quinzaine de musiciens autour de Mozart, Chopin ou Ravel entre autres. Un rendez-vous vital pour l'artiste.
L'espace attirant qu'est la scène, avec les lumières dans les yeux, avec le froid, la boue, les quintes de tout, le programme que les gens froissent et le retardataire qui arrive dans la mesure la plus intéressante de Schubert. Voilà, les fauteuils gris, rouges, tout ce que vous voulez. Mais il fallait attendre. Et c'était vraiment une très grande tristesse.
C'est aussi pendant son confinement près d'Aix-en-Provence que l'envie de réunir musiciens et festivaliers a démangé le pianiste Christophe Bucudjian.
Pendant ce confinement, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal marché, j'ai découvert un lieu et tout d'un coup j'ai eu comme une forme de révélation, de coup de cœur où je me suis dit mais il faut absolument faire un festival ici. Et effectivement, quand je dis que c'est paradoxal, c'est que je pense pas que j'aurais eu l'énergie de le faire si j'avais pas été justement dans ces conditions de confinement, de solitude, d'introspection, on va dire, et de manque aussi forcément, parce que comme je suis pianiste et que là j'étais en situation où je jouais plus. Et je crois que le manque a provoqué le désir en fait.
Une idée sur une feuille blanche, un investissement financier personnel, quelques subventions, et voici Christophe Bucudjian, un an plus tard, à la tête des musicales de la Route Cézanne. Le festival s'est déroulé sans souci et avec passe sanitaire à la fin juillet. Un pari auquel peu de gens croyaient.
Certaines personnes me décourageaient, me disaient « mais t'es fou, attends un an, tu prends trop de risques, etc. » Et au fond de moi, je me suis dit « non, forcément, on va y arriver. » Et puis l'été, quand même, on avait quand même un peu moins de risques d'annulation. En plein été, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. Donc j'ai eu confiance jusqu'au bout, en fait. Et puis ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments, quand même, forcément, des moments d'inquiétude.
Double difficulté pour le Dinar Opening, un festival consacré aux musiques franco-britanniques qui devait faire face aux contraintes sanitaires et au Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est tombée au même moment que l'apparition du virus. Vincent Rémy est adjoint à la culture de la ville de Dinard.
Créer un festival de musique britannique à un moment où les artistes britanniques ne peuvent pas venir jouer en France, c'était un défi. C'est pour la raison pour laquelle nous avons demandé à Jane Birkin d'être marraine du festival. Elle est anglaise. Et nous avons trouvé des groupes bretons ou français avec une composante anglaise ou écossaise.
Ces festivals valeureux ont survécu. Leurs fondateurs, intrépides et soulagés, pourront souffler dès septembre et réfléchir aux secondes éditions.
Un reportage de Marie Jiquel à retrouver et réécouter sur notre site francemusique.fr. Et l'un des ensembles invités aux rencontres franco-britanniques de Dinard, eh bien c'est l'Orchestre National de Bretagne qui sera en concert ce samedi 14 août à 21h au Parc de Port-Breton. Orchestre de Bretagne que voici dans la musique d'un Breton, la musique de scène Œdipe à Colonne de Guy Ropartz. D'après la tragédie grecque de Sophocle, Œdipe à Colonne, c'était à l'instant la musique de scène que compose Guy Ropartz pour cet Œdipe à Colonne, pardon, avec l'Orchestre de Bretagne dirigé par Kirill Karabits. Et à 7h50, eh bien oui, c'est l'heure de jouer. Et pour jouer, pour gagner, pourquoi pas, il vous suffit de répondre correctement à la question que je vais poser et nous écrire via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission Musique Matin sur notre site francemusique.fr. Évidemment, n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Ce matin, nous vous offrons le disque des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau par La Chapelle Harmonique, dirigée par Valentin Tournet. La Chapelle Harmonique qui sera en concert le 14 août, c'est-à-dire samedi, au Festival Musique à la Source en Creuse, festival de Valentin Tournet. Alors, ce disque Rameau, Les Indes Galantes, eh bien, le voici, si vous le voulez, mais voilà la question. Créé en 1735, combien de temps demeure à l'affiche cet opéra-ballet Les Indes Galantes de Rameau à l'Opéra de Paris? Enfin, précisément, l'Académie Royale de Musique. Combien de temps dure est à l'affiche cet opéra-ballet Les Indes Galantes à partir de 1735? Est-il resté à l'affiche 4 ans, 10 ans ou 25 ans? Est-il resté 4 ans, 10 ans ou 25 ans à l'affiche? Je donne la bonne réponse juste avant 9h et puis vous entendrez peut-être votre prénom dans les gagnants du jour, qui sait.
Thank you.
l'ouverture des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau par la Chapelle Harmonique dirigée par Valentin Tournet. Très bientôt commence le festival de Rocamadour. Ça se passe cet été, du 15 au 26 août. C'est la 16e édition de ce festival de musique sacrée, avec des sacrés noms aussi. La Tempête avec Simon-Pierre Bestion, on l'a entendu tout à l'heure, Thibaut Garcia, Christina Pluart ou encore Philippe Jarouski, Hervé Niquet entre autres. Le thème de cette année pour le festival de Rocamadour, c'est authentique héritage. Eh bien, le 26 août, il y aura en concert de clôture Alexandre Tarot dans un programme liste. Alexandre Tarot, que voici, mais avec Camélia Jordana, juste pour le plaisir ce matin à 7h55.
Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler au loin les hirondelles. Mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Sur la fumée des cigarettes, l'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ombre. Je reste sur le quai, mon amour. À bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Sur la fumée des cigarettes, l'amour viendra peut-être, peut-être un soir au détour d'un printemps. Quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain.
Pour un réveil tout joli, tout en douceur, la voix de Camélia Jordana, accompagnée par Alexandre Tarot dans cette chanson « Septembre », que vous avez peut-être reconnue, de Barbara. Musique Matin, nous revenons dans quelques instants, il est 7h59.
Samedi à 20h, France Musique vous offre une soirée Wagner depuis le festival de Bayreuth. À l'affiche, Tannhäuser, sous la direction d'Axel Kober, chef rodé aux opéras wagnériens, avec notamment Lise Davidsen, Ekaterina Gubanova et Günther Groesbeck. Redécouvrez ce magnifique opéra où la dualité de l'homme dans l'amour s'exprime, incarnée par le poète héros. Rendez-vous samedi à 20h, Tannhäuser, depuis le Festival de Bayreuth, sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Merci d'écouter France Musique. Il est tout juste 8h et donc c'est l'heure du journal. Le journal qui vous est présenté ce matin par Lise Lacombe. Bonjour Lise.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Un nouveau conseil de défense sanitaire organisé aujourd'hui. La priorité de l'exécutif, la situation sanitaire critique en Martinique et en Guadeloupe. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est actuellement en Guadeloupe pour une visite de crise. L'île est la région de France la plus touchée par l'épidémie avec le taux d'incidence le plus élevé, 1769 cas pour 100 000 habitants, tandis qu'en Martinique, on dénombre 20 fois plus de décès chaque jour. La région s'est reconfinée hier et la Guadeloupe va subir un durcissement de son confinement partiel. Et ce conseil de défense sanitaire tenu par Emmanuel Macron sera aussi l'occasion pour l'exécutif de faire un bilan des premiers effets du pass sanitaire, entré en vigueur depuis lundi. La mesure qui est censée assurer la tenue des événements culturels, mais pour les villes moyennes avec des événements plus petits, parfois les annulations sont inévitables, Laura Dulieu.
Ce devait être le final de la tournée. La soirée a finalement été annulée vendredi dernier. Didier Pascalis est le producteur de la tournée symphonique en mémoire du chanteur Alain Leprest. Ce dernier concert devait se tenir dans le village où l'artiste est mort. Mais contre toute attente, c'est le pass sanitaire qui aura eu raison de cette date.
Les gens se vaccinent moins en province et leur ajouter une condition de passage comme ça les a refroidis, ce qui fait que la billetterie s'est arrêtée du jour au lendemain après l'annonce de Jean Castex. En fait, ça complique énormément tous les petits concerts d'été, ou les moyens, ou même les gros concerts d'été, qui sont dans des lieux qui ne sont pas adaptés pour ça. Bon, c'est sûr que les francopholies étaient plus à même de pouvoir s'organiser pour accueillir 5 ou 6 000 personnes à La Rochelle qu'un village où normalement tout se fait de façon bon enfant, où d'un seul coup, une sorte de ce qui pourrait être pris pour du flicage devient aussi une organisation anticipée.
Dans les villes moyennes qui organisent des festivités d'été, l'application du pass sanitaire n'est pas simple. Entre bénévoles à trouver, agents de sécurité à recruter et spectateurs à convaincre de venir, à Bergerac, les débuts ont été difficile, mais les concerts organisés par la ville tout l'été ont été maintenus. Laurence Rouen y est la première adjointe déléguée à la culture.
Dès lors que nous avons mis en place le pass sanitaire sur nos concerts, tablis du terroir, des petits marchés gourmands nocturnes et théâtres, effectivement la première semaine ça a été compliqué, mais depuis la semaine dernière on retrouve des chiffres à peu près normaux. On aurait pu s'attendre à pire, c'est pas le cas.
Les organisateurs tablent sur une progression de la vaccination, mais là aussi c'est inégal sur le territoire. Le taux de vaccination est bien plus faible dans le sud de la France que dans le nord.
En Algérie, 42 morts dans les incendies qui ravagent le nord du pays. La Kabylie est en proie aux flammes depuis lundi soir. Les autorités évoquent une cinquantaine de feux d'origine criminelle, amplifiés par un épisode de canicule. Deux nouvelles capitales aux mains des talibans en Afghanistan. La progression des rebelles se poursuit au nord et à l'ouest du pays. Ils sont désormais en possession de 8 capitales sur 34. Malgré leur avancée, le président des États-Unis, Joe Biden, assume sa décision de retirer les troupes américaines du pays. Il a appelé les forces gouvernementales afghanes à se battre pour eux-mêmes et pour leur nation. Aux États-Unis, justement, le gouverneur de New York démissionne, accusé de harcèlement sexuel par une dizaine de femmes, en difficulté depuis des mois, mais toujours en fonction. Andrew Cuomo avait reçu il y a une semaine le coup fatal avec la publication d'un rapport accablant sur cette affaire. Explication avec Loïc Loury.
En mars dernier, déjà mis en cause pour harcèlement sexuel, Andrew Cuomo avait repoussé les appels à la démission, position intenable suite à la publication il y a 8 jours du rapport de la procureure de New York. Étant donné les circonstances, la meilleure façon pour moi de vous aider maintenant est de me retirer afin que le gouvernement puisse à nouveau gouverner. Joe Biden lui-même avait appelé à son départ. Andrew Cuomo, mis en cause par 11 femmes, présente ses profondes excuses tout en assurant ne pas avoir eu conscience de la portée de ses gestes. Je pensais qu'une accolade en passant mon bras autour des épaules d'une assistante pour une photo était amicale, mais elle a estimé que c'était trop entreprenant. Et en dénonçant une machination politique et la partialité de la procureure de New York. Les accusations les plus sérieuses formulées contre moi ne sont pas étayées par des faits crédibles dans ce rapport. Et il y a une différence entre un comportement inapproprié présumé et ses conclusions d'un harcèlement sexuel attesté. Un mea culpa limité donc et un départ qui n'empêchera pas plusieurs enquêtes de se poursuivre. La vice-gouverneur Katie Hochul le remplacera. C'est la première fois qu'une femme prend les commandes de l'État.
Le temps avec le soleil qui s'installe sur une grande partie du pays, malgré quelques grisailles au nord et quelques averses sur la chaîne pyrénéenne, c'est le beau temps qui s'installe sur tout le reste du pays. Pour ce matin, les températures se situent entre 12 et 15 degrés au nord et 14 et 18 au sud. Cet après-midi, les températures vont largement grimper sur l'ensemble du pays. Il est 8h, passé de 5 minutes. Merci d'être à l'écoute de France Musique. Je vous laisse en compagnie de Gabriel Olivier Aguillon pour Musique Matin.
Merci beaucoup Lise Lacombe, on est contente de ce soleil qui arrive. Prochaines informations tout à l'heure à midi, avec vous également.
À tout à l'heure.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30-9h de Gabriel Olivier Aguillon, Musique Matin.
Et la suite, c'est donc maintenant et jusqu'à 9h. Nous sommes ravis d'être avec vous. Nous recevrons à 8h30 le pianiste Théo Fouchonneret pour ses concerts estivaux, y compris celui à la Roque d'Anteron samedi. Nous parlerons également de son disque Beethoven et sa participation à l'intégrale de la musique de chambre de Brahms. Dans 5 minutes, le Tour de France des festivals, aujourd'hui au cœur du Pays Basque pour Classique à Guétari. Et puis nous continuons à écouter les musiques de notre temps, à défendre la place de la composition musicale parce qu'elle existe bel et bien et des merveilles. Il y en a, n'ayons pas peur des mots ni des notes du 21e siècle. Aujourd'hui, place à la création avec Jonathan Pontier. Vous savez tout, nous vous souhaitons une très belle matinée à l'écoute de France Musique. Je vous souhaite la bienvenue, il est 8h06. Thank you. L'allegro moderato de cette belle sonate pour violon et piano numéro 1 en ré mineur à l'opus 75 de Camille Saint-Saëns. À l'instant par le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Bertrand Chamaillou. Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillou, deux artistes en duo ce soir dans le cadre de la 72e édition du Festival de Menton à 21h30 sur le parvis de la Basilique Saint-Michel-Archange. Cette œuvre au programme, justement, nous en écoutions le troisième mouvement, mais aussi Ravel Fauré, ce soir donc à Menton. Et on reste près de la mer pour notre Tour de France des festivals tout de suite, mais côté océan Atlantique. Allez, allez, petit vélo, on pédale. Et à 8h11, nous allons rejoindre Aurèle Martin. Bonjour.
Bonjour Gabriel.
Vous êtes donc face à l'océan Atlantique, là ?
Exactement.
Alors vous êtes pianiste et directeur artistique du festival classique à Guétari que vous avez fondé en 2013. Guétari, une ville qui vous a vu grandir et dans laquelle donc maintenant vous invitez vos amis musiciens pour des concerts un peu partout en ville. On sait que l'an dernier votre festival a pu être maintenu, mais là j'imagine que vous êtes heureux de jouer quand même après tous ces mois de silence.
Oui, c'est sûr qu'avec la crise qu'on a traversée, on est très heureux de se retrouver entre amis pour partager les plaisirs de la musique de chambre avec les auditeurs, les festivaliers
et le public. 11 concerts donc cette année. Les premiers ont lieu vendredi, après-demain, 18h puis 20h30. Qui pourra-t-on voir jouer, Aurèle Martin ?
Alors à 18h, le Quatuor Hanson, qui fait partie de la colonne vertébrale du festival. Également Raphaël Moreau à 18h dans une sonate de Mozart avec moi-même au piano, et le soir pour la première fois au festival, la famille Moreau au complet.
Alors c'est-à-dire Edgar au violoncelle, Raphaël au violon, David au violon également et Jérémy au piano.
C'est ça, exactement. Ils vont jouer le programme de leur disque qui est sorti il y a pas très longtemps et
Dvorak et Korngold. Deux concerts par jour, donc 18h et 20h30, on l'a dit, sauf mardi prochain, le 17, jour de clôture. Là, il y aura un concert également à 11h30. Moment que vous avez appelé concert apéritif. Qu'est-ce qu'il aura de différent des autres ?
C'est-à-dire qu'on va, donc c'est un concert, c'est la première fois qu'on fait ce concert-là, et c'est un concert apéritif dans le sens où il y aura une œnologue. Voilà, juste avant sur le lieu du concert, qui nous fera déguster des vins en fonction des compositeurs entendus.
Alors vous êtes pianiste vous-même, Aurèle Martin, hein, on vous entendra donc vendredi. Est-ce que vous jouerez également lors d'autres concerts ?
Oui, je joue lors de 6 concerts, je crois, oui, c'est ça. Du Liszt, du Schumann, du Mozart, du Debussy.
Et Renaud Capuçon avec Nicolas Sanguelich aussi en concert ce dimanche à 20h30 pour des sonates violon-piano de Brahms. Comment se passent les réservations, Aurèle Martin ? Vous sentez que les gens ont hâte de vous retrouver, hâte de retourner au concert, avec le pass sanitaire ?
Oui, à l'annonce du gouvernement, effectivement, il y a eu une petite baisse des réservations, mais qui s'est estompée. Les gens entendent parler du festival et se remotivent, et voilà, il n'y a plus trop de questions en tête de passe sanitaire ou quoi. C'est plutôt l'envie, et les gens sont avides de musique et veulent retrouver la musique et les musiciens.
Un rendez-vous incontournable maintenant pour la ville de Guétari. Une édition de votre festival, pardon, une nouvelle fois marrainée par Anne-Sophie Lapix. Comment s'est faite votre rencontre, Aurèle Martin ?
Notre rencontre s'est faite via un ami restaurateur qui lui a proposé mon disque Mozart. Et voilà, Et puis depuis, c'était naturel de lui proposer d'être marraine. On avait besoin d'une personne mélomane et de notoriété. Mmh. Pour donner du cachet au festival, et c'est ce que ça provoque. Voilà.
Un programme très classique, donc classique à guitare, classique romantique, donc du 13 au 17 août prochain. Mais il y a quand même des petits pas de côté, entre guillemets, qui semblent délicieux. Oui. Guitare, voix, cordes, justement, ça. Le 17, on va entendre du Brel, Léo Ferré, des titres des Buena Vista Social Club.
Al Jarreau, oui, c'est un programme crossover, voilà, qui change un petit peu de ce monde entre guillemets classique. C'est un spectacle que Marina Viotti et donc qui est chanteuse, mezzo soprano, et Gabriel Bianco, très très bon guitariste, oui, ont mis en place il y a peut-être un an, et c'est un spectacle qui s'appelle Porque existe otro querer, qui est magnifique. Il mélange des œuvres comme Al Jarreau, Buena Vista Social Club, Fauré, Satie, De Falla, Massenet.
Et ça, ce sera à 18h mardi, oui. 17 août. Ils seront également à 11h30 pour ce fameux concert apéritif. L'année prochaine, Aurèle Martin, vous fêterez les 10 ans de ce rendez-vous musical classique à Guétari. Vous y pensez déjà à la programmation ?
J'y pense déjà, oui. J'ai pas mal d'idées. Après, je vais laisser déjà celle-ci se passer.
Bien sûr.
Mais je vais tout de suite, en suivant, m'y plonger.
On rappelle les dates du festival de cette année 2021. Classique à Guétari avec vous, Aurèle Martin, et plein d'autres copains musiciens du 13 au 17 août. Ça commence donc après-demain et on vous entend justement avec Les Moreaux, Adrien Boisseau, dans le premier mouvement, Allegro Manon Tanto du quintet pour piano et cordes dans La Majeure d'Antonine Dvorak que vous avez donné tout récemment ici à France Musique. Merci beaucoup, Aurèle Martin.
Merci à vous, Gabrielle.
Bon festival.
Merci beaucoup. We'll be right back.
Extrait de l'émission Génération France Musique, le live enregistré le 26 juin dernier au Théâtre de l'Alliance Française, présenté par Clément Rochefort à l'instant, Aurel Martin au piano, Raphaël et David Moreau au violon, Adrien Boisseau à l'alto et Edgar Moreau au violoncelle dans le premier mouvement Allegro Manon Tanto du quintet pour piano et cordes en la majeure opus 81 de Dvorak. Et comme chaque jour, France Musique est aux côtés des artistes et du public. Partout en France, France Musique arrive avec ses camions, ses équipes, ses câbles et ses micros pour partager avec vous un grand nombre de concerts. À 16h, concert donné lors du Festival de Salzbourg, programme Mahler et Schönberg. Et puis dans la soirée, deux concerts dans le cadre du Festival des Proms, donné ces jours-ci au Royal Albert Hall à Londres et présenté donc par Jérémy Rousseau. 20h, l'Orchestre Philharmonique Royal dirigé par Vassili Petrenko. Et 21h30, les BBC Singers avec l'Orchestre Symphonique de la BBC. Et puis en fin de soirée, 23h, une fois n'est pas coutume, Jazz in Marciac, on y reste. Et puis surtout avec ce très beau concert de la trompettiste R.L. Besson, enregistré aussi tout récemment à la Strada à Marciac, présenté ce soir dès 23h par Nathalie Piollet. Vassili Petrenko qui sera donc au concert de 20h, et bien le voici ici dans le Vivace de la première symphonie d'Alexandre Scriabine. le quatrième mouvement Vivace de la première symphonie en mi majeur opus 26 d'Alexandre Scriabine par l'orchestre philharmonique d'Oslo dirigé par Vassili Petrenko. Alexandre Scriabine qui a été contemporain de Vladimir Horowitz ou encore Sergueï Diaghilev ou Margarita Morozova, son épouse. Eh bien nous sommes contemporains de nombreux compositeurs aussi. Alors profitons-en pour les connaître, c'est notre place à la création.
Musique Matin.
Et ce matin, la musique vivante résonnera grâce à un compositeur, Jonathan Pontier. Né en 1977 à Bagnolet, il se forme à l'ENM de Montreuil, puis au Conservatoire de Paris. Il obtient un prix de composition et de nouvelles technologies. Il est compositeur, oui, mais également producteur, guitariste, pianiste, spécialiste en informatique. Il se définit lui-même comme un fabricant de musique au pluriel. Et ce matin, c'est son œuvre Artefacts que je vous propose. Elle date de 2005. Elle est écrite pour hautbois, clarinette, saxophone alto, clarinette basse et basson. Une commande du quintet avant Califax. Cette pièce met en scène le rapport moderne que l'homme entretient avec la musique. Un homme dans un bus écoute tous les jours sa playlist favorite en se rendant au travail. Balade de R&B, bandes originales de films, funk dynamisante ou encore Pachelbel Bell ou des tangos. Et puis un jour, l'appareil montre des signes de fatigue et brasse les morceaux les uns dans les autres dans une danse effrénée confinant au remix aléatoire. La musique de film devient funky, Beethoven flirte avec les bips numériques, enfin bref, c'est des artefacts qui s'emparent de l'histoire de la musique et vice versa. Et alors, se promener au hasard dans notre bibliothèque de plusieurs milliers de balades pop, maintenant, eh bien on ne reconnaît rien, on tend l'oreille, il n'y a rien de calme, on n'entend plus que des parasites, des interpolations ou disons artefacts. Peut-être votre lecteur est devenu un compositeur contemporain automatique, une sorte de kiosque à musique moderne, peut-être. Eh bien ça, ce sont les mots du compositeur justement. Alors maintenant, ça suscite la curiosité, n'est-ce pas ? Artefacts sur France Musique à 8h27. Artefacts de Jonathan Pontier, une œuvre de 2005 commandée par le quintet avant Califacts, un enregistrement là qui date lui aussi de 2005. 8h30, il est l'heure tout de suite d'accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7h30-9h de Gabriel Oliver Aguillon.
Avec nous en studio en direct, le pianiste Théo Fouchonneret. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous avez été nommé aux Révélations Artistes Instrumentales aux Victoires de la Musique Classique en 2019. En 2013, lauréat du premier prix du Concours International Forêt. Et puis vous remportez ex aequo le Concours International de Piano de Genève en 2018. Théo Fouchonneret, vous serez en concert ce samedi 14 août. Dans quelques jours, dans le cadre du Festival de la Rock d'Anteron, concert matinal à 9h45 à l'Auditorium du Parc. Pas un récital, vous serez sur scène avec Pierre Fouchonneret, violoniste, votre grand frère que l'on salue, et le quatuor à cordes, quatuor Aquilone, un programme juste Ernest Chausson, son concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur.
Oui, tout à fait, c'est une pièce qui est quand même très conséquente et puis qui est une sorte de voyage dramatique absolument incroyable. Donc forcément, oui, c'était naturel de ne pas rajouter quelque chose d'autre au programme, hein, vu la dimension de l'œuvre.
Ouais. On sent l'influence de César Franck, son maître, hein, à Chausson. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de Forêt? Je sais que c'est un compositeur que vous aimez beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire de l'intérieur un peu la partition, en tout cas vu du pianiste?
Alors c'est une œuvre assez unique dans plusieurs sens. Déjà la formation qui est très rare. Donc c'est une sonate en fait avec un quatuor à cordes dans le but de mettre en valeur la ligne mélodique du violon en quelque sorte. Et Chausson a quelque chose d'éminemment français dans son langage harmonique et il puise quand même sa source dans le romantisme germanique. Donc c'est une pièce absolument unique dans le paysage musical français de cette époque. Donc c'est prenant, en tout cas.
Une œuvre composée entre 1889 et 1891 que vous donnerez donc ce samedi 14 août à 9h45 avec le quatuor Aquilone et donc Pierre Fouchonneret. Théo Fouchonneret, vous avez déjà été, mais il y a très longtemps, hein, lors des ensembles en résidence à la Roque d'Anteron. C'est un honneur pour vous d'y être invité cette année?
Ah bah oui, c'est un festival absolument incontournable pour tout pianiste. Et j'avais gardé effectivement de très très bons souvenirs de ces ensembles en résidence. Des moments très intenses quand on est jeune et très formateurs. Ouais.
Vous aurez l'occasion d'écouter d'autres artistes à la Rock?
Eh ben, je vais essayer. Je crois avoir vu que, parce que j'arrive la veille, parce qu'on joue très tôt le matin. Ouais. Je crois que Michel D'Alberto joue le soir, donc je vais peut-être essayer d'aller écouter.
Ouais. Théo Fouchonneret, dans votre actualité toute récente, il y a aussi ce disque Beethoven.
Thank you.
sur France Musique à 8h35, le Scherzo assai vivace de la sonate pour piano numéro 29 de Ludwig von Beethoven, si bémol majeur opus 106, dite Hammer, clavier, interprété par notre invité ce matin, Théo Fouchonneret. Un extrait de votre disque paru chez La Dolce Volta l'an dernier, un programme Beethoven d'une grande variété dans ce disque, la sonate numéro 21 Waldstein, et puis celle que l'on vient d'entendre, Hammer, clavier, une sorte d'Himalaya du piano. C'est une de ses dernières sonates à Beethoven.
Tout à fait, ouais, elle marque vraiment le moment où il compose sa dernière grande période, donc ses dernières grandes sonates, c'est un peu le tournant. Et c'est une sonate d'une richesse incroyable. Moi, en réécoutant, je m'étonnerais toujours de la modernité de cette sonate, quoi. C'est vraiment.
En vous réécoutant, là d'ailleurs, vous imaginez que plus tard vous la jouerez un peu autrement?
Ah bah j'espère, ouais, peut-être.
Vous espérez vraiment?
Ben oui, parce que je pense on n'a jamais vraiment fait le tour d'une pièce comme ça. Et puis, je suis content déjà d'avoir fait tout ce chemin avec cette pièce-là. Et puis, j'exclus pas de la enregistrer peut-être un jour. Ouais,
Beethoven avait écrit à son éditeur, voilà une sonate qui donnera du fil à retordre au pianiste quand on la jouera dans 150 ans. Il y a quelque chose d'incroyablement difficile à jouer. Comment vous pouvez le... Enfin, je sais pas, ça semble être évidemment un monument de toutes ces sonates, particulièrement celle-ci.
Oui, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il a poussé... toutes les limites techniques, les limites compositionnelles aussi, il a poussé tout à bout. Et puis il y a quelque chose d'un peu prophétique dans cette phrase qu'il a dit, parce que effectivement le premier pianiste de l'histoire à avoir créé la Hammerklavier, c'est Franz Liszt. Donc il fallait au moins un pianiste comme ça pour pour en venir à bout.
Ouais. Une belle ambition, ouais. Et réussite. Et au Fouchonneret, pourquoi avoir associé ces deux pièces-là de Beethoven qui sont très différentes en fait?
Oui, parce que je trouvais que il fallait pour contrebalancer un petit peu le poids émotionnel de la Hammerklavier, une sonate tout aussi forte, mais dans une autre émotion. C'est beaucoup plus lumineux, la Waldstein. Et elle a cette force universelle. Et puis c'est aussi dans les sonates de Beethoven, une sonate qui marque une évolution tout particulièrement dans sa manière de composer.
Beethoven qui semble être un grand amour, une grande fascination pour vous. Est-ce qu'il sera à l'honneur peut-être dans votre prochain disque seul, vous y pensez?
Oui, je pense à un prochain disque bien sûr seul, et c'est plutôt la musique française qui m'intéresse, et notamment Gabriel Fauré, ouais.
Ouais. Et puis alors juste après, on va écouter Gabriel Fauré parce qu'effectivement vous l'interprétez très bien. Il y a aussi les musiques de notre temps, on écoutait tout à l'heure Jonathan Pontier. Ouais. Vous avez interprété l'œuvre de Thomas Hades, compositeur anglais né en 1971, enregistré avec le Trio Messiaen. Ouais. Un ensemble, vous n'en faites plus partie maintenant,
non,
le
non,
Trio
non,
Messiaen.
Non.
Ouais. Trio vainqueur du concours international de musique de chambre de Lyon en 2018. Ça vous a donné encore plus envie de jouer des compositeurs, des compositrices vivants? Est-ce que vous avez aussi des projets dans ce sens encore?
Oui, notamment, je reviens du festival de Deauville où j'ai enregistré pour le label Bee Records la pièce monumentale de Crumb Macrocosmos 3 pour deux pianos et deux percussions. Et oui, la musique vivante en tout cas, c'est vraiment une part très importante de mon boulot. En tout cas, j'essaye de l'embrasser au maximum.
Mmh. Vous parliez du festival Août à Deauville. Vous serez également la semaine prochaine, le 18 août, à la basilique Saint-Just de Valcabrère à 20h30 dans le cadre du festival de Comminges avec Victor Julien Laferrière au violoncelle. Et puis vous serez également Théo Fouchonneret pour deux concerts dans le cadre des soirées musicales en Val-de-Seugne le 20 août prochain, 18h en récital et puis 20h avec François Salk et Philippe Béraud. Victor Julien Laferrière donc très bientôt avec lui au festival de Comminges. Comment s'est fait votre rencontre tous les deux, violoncelle, piano, au-delà de Brahms entre autres que l'on va écouter bientôt?
C'est vrai que Brahms a été quelqu'un qui nous a réunis. Je pense aussi que Victor, on l'a rencontré, je l'ai rencontré via mon frère. Il y a maintenant, je pense que je m'étais fait réflexion peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et je pense que au début, notre rencontre s'était fait, il m'avait proposé d'aller l'accompagner sur un concours international. Et puis en fait, on s'est très bien entendu. Maintenant, c'est une collaboration qui dure et qu'on entretient avec grand plaisir, je crois.
Thank you.
Les applaudissements du public du concours Reine-Elisabeth en 2017, remporté par Victor-Julien Laferrière ici au violoncelle et accompagné par Théo Fouchonneret au piano dans l'Allegro Molto de la sonate numéro 2 en Fa majeur opus 99 de Brahms. Théo Fouchonneret, notre invité ce matin à l'occasion de son concert très bientôt samedi matin au Festival de la Roque d'Anteron. Il n'y aura pas du Brahms, mes chaussons, mais Brahms, on va y revenir parce que vous le côtoyez aussi alors que vous participez à l'intégrale de la musique de chambre, avec la belle saison, aux côtés de musiciens comme le pianiste Éric Lesage, le violoncelliste François Salk, Lise Berthaud à l'alto, ou encore Pierre Fouchonneret, donc votre frère, disque chez B Records. C'est le 9e volume qui est paru récemment, avec deux œuvres pour deux pianos de Brahms, que tout vous jouez vous-même, ouais. Donc Théo Fouchonneret avec Éric Lesage.
Tout à fait, c'est les variations sur un thème de Haydn, qui existe aussi en orchestre, et une transcription assez peu jouée par Brahms lui-même du quintet, donc c'est qui s'appelle la sonate pour deux pianos, et c'est le quintet en réalité.
Très bien, voilà, je ne savais pas. L'œuvre de variation sur un thème de Haydn, comment vous l'avez abordée avec Éric Lesage, par exemple celle-ci précisément pour deux pianos?
Déjà, on a joué sur des pianos de Chris Menn. C'est des pianos à cordes parallèles, des pianos un petit peu particuliers. Donc, on s'est basé aussi sur ce son très clair de ces pianos pour pouvoir diversifier au mieux les palettes sonores, le tout le pan orchestral bien sûr de cette pièce. Et on a essayé aussi, donc je pense que ce qu'apporte le deux pianos par rapport à l'orchestre, c'est peut-être une plus grande conviction, par exemple dans des choix de tempi ou dans l'enchaînement de certaines variations. On peut aller peut-être plus loin dans certains choix.
Brahms, en fait, qui a peu écrit pour le piano, enfin si j'entends par rapport à son corpus entier, comment vous pourriez l'expliquer, vous, Théo Fouchonneret, comment on peut le... En fait, on se demande vraiment pourquoi il n'a pas un peu plus écrit vraiment pour piano seul.
C'est vrai qu'il y a des œuvres de jeunesse pour piano, elles sont quand même monumentales. Ça veut dire que quand on veut s'attaquer à l'intégrale de la musique pour piano de Brahms, il faut quand même se lever de bonne heure, j'ai envie de dire.
Mais en nombre d'œuvres, il n'y en a pas.
Ouais, en nombre d'œuvres, c'est vrai, mais ça représente quand même un gros boulot. Il était quand même, je crois, très content de certaines pièces, par exemple les variations Handel. Ça, je crois qu'il était ravi, Brahms lui-même, de sa qualité de production. Donc. C'est quand même des œuvres qui sont marquantes dans sa production, parce qu'il y a aussi des œuvres de la fin, les intermezzos qui sont absolument un graal quoi pour tout pianiste qui veut le jouer. Donc c'est quand même très conséquent.
Ouais. Théo Fouchonneret, c'est un projet assez insensé, cette intégrale de la musique de chambre de Brahms. Est-ce que vous allez, il y a encore des choses que vous allez vous-même enregistrer?
Alors oui, on prépare quelque chose encore avec Éric Lesage, parce qu'après le deux pianos, il faut bien sûr il y a la musique pour quatre mains qui est encore plus grande que la musique pour deux pianos en nombre d'œuvres, et donc on va préparer un disque pour clore cette intégrale définitivement.
Donc ce sera le 10e volume.
Voilà, tout à fait.
On va écouter Théo Fouchonneret un nouvel extrait de votre disque Beethoven, le 2e mouvement, cette fois-ci de la sonate Waldstein Aurore. Théo Fouchonnerie, ici dans le deuxième mouvement de la sonate Waldstein, numéro 21, pardon, sonate de Beethoven, opus 53. Théo Fouchonnerie, ici, on l'entend, un énorme travail sur le son, non ?
Oui, c'est sûr que forcément, quand on aborde Beethoven, il faut aborder ce pan-là du piano, le son, effectivement. C'est une sonate qui, d'ailleurs, est assez intéressante à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup d'innovations de pédales assez intéressantes. Il demande des très longues plages tenues, donc pour une sorte de résonance, un petit peu. Donc, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à creuser au niveau du son. Mmh.
Un extrait de votre dernier disque, premier disque solo, deux sonates de Beethoven parues chez la Dolce Volta l'année dernière. Comment, Théo Fouchonnerie, justement, vous travaillez la sonorité de votre jeu ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des conseils qu'on vous a donnés sur le son ou autre, auxquels vous pensez à chaque fois que vous vous mettez au piano ? Je rappelle quelques noms de vos professeurs, Hortense Cartier-Bresson, Alain Planès ou encore Jean-Frédéric Neuburger, Jean-Claude Pentier. Est-ce qu'il y a des choses qui restent en vous à chaque fois que vous travaillez une œuvre ?
Alors c'est sûr que j'ai le point commun là, des noms que vous venez de citer, c'est vrai que ce sont des pianistes qui ont des sons magnifiques, et je pense en particulier à Alain Planès et Hortense Cartier-Bresson m'ont vraiment transmis cette manière de creuser l'instrument, en tout cas que le jeu français n'était pas un jeu en surface au-dessus du clavier, mais vraiment un jeu qui parle, expressif, et c'est des choses effectivement auxquelles je repense très souvent, bien que le son ne soit pas le seul paramètre qui m'intéresse dans la musique.
Alors c'est quoi l'autre paramètre, les autres paramètres ?
Eh bien le rythme aussi, quelque chose à énormément travailler, la vie rythmique, la forme des pièces qu'on aborde, comment trouver un discours agogique naturel, c'est tout ça qu'il faut réussir à faire cohabiter.
Et chez Fauré également ?
Chez Fauré également, ouais. Ça c'est encore plus même, je dirais, c'est une musique qui... Encore Beethoven est une musique qui se construit, qui... On peut anticiper beaucoup de choses quand on la joue. Fauré laisse beaucoup plus part à l'instant présent, je dirais, à qu'est-ce que l'harmonie, à ce moment-là où on va le jouer, va faire sur nous. C'est une sorte de psychologie des émotions, en quelque sorte, Fauré. Mmh.
C'est ce que vous avez interprété, Fauré, pardon, les trois romances sans parole, opus 17, numéro 3, lors du concert des révélations des victoires de la musique classique en janvier 2019. J'y étais, et cette romance, donc numéro 3, a été somptueuse, vraiment.
Merci.
On va l'écouter d'ailleurs, on a retrouvé évidemment cet extrait. Dans votre jeu, il y a quelque chose, en tout cas dans la sonorité, quelque chose de Wilhelm Kempf ou peut-être Emil Naumov. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, mais il y a quelque chose d'hyper sensuel, très large dans votre jeu, à vous Théo Fouchonnerie, je trouve.
Ah bah c'est très gentil. Kempf, c'est une idole d'enfance effectivement, j'ai beaucoup écouté.
Qu'est-ce que vous aimez tant chez ce pianiste, Wilhelm Kempf ?
Ah bah justement cette capacité à chanter sur l'instrument qui est phénoménale, quoi. C'est vrai qu'il a quelque chose, il a développé une personnalité dans son son, et je pense qu'au piano c'est quelque chose de très difficile à obtenir.
Théo Fouchonnerie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On pourrait continuer encore des heures. Ouais. Vous serez ce samedi 14 août à la Roque d'Anteron à 9h45, le 18 avec Victor-Julien Laferrière au Festival de Comminges. Et puis deux concerts dans le cadre des soirées musicales en Val-de-Seugne, une carte blanche. Le 20 août prochain, 18h en récital, seul donc. Et puis à 20h avec François Salk et le clarinettiste Philippe Béraud. Dernière question, Théo Fouchonnerie, que l'on pose à chacun de nos invités. En août, en quelques mots, vous partiriez où, avec qui et en écoutant quelle musique ?
Alors, je vais assouvir ce que je vais vous dire, parce que je vais partir au Portugal avec ma copine fin août, et je pense que j'ai très envie d'y aller. Et en ce moment, qu'est-ce que j'écouterai ? On va dire musique pour cordes, percussions et cellista de Bartok.
Merci beaucoup, Théo Fouchonnerie, d'avoir été avec nous ce matin. Très bon concert à venir.
Merci.
Beau séjour au Portugal. Et puis, vous voici dans cette fameuse romance sans parole, opus 17, numéro 3 de Gabriel Fauré. C'était en 2019. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Thank you.
Le public de la scène musicale lors du concert des révélations des victoires de la musique classique en janvier 2019, Théo Fouchenneret, dans les trois romances sans parole, opus 17, numéro 3 de Gabriel Fauré. Théo Fouchenneret en concert, on l'a dit, et puis à l'instant je reçois un message. Oui, il faut aussi annoncer votre concert, Théo, demain soir dans l'église de Brissarte, dans le cadre des heures musicales du Haut Anjou, ou Haut Anjou, voilà, c'est dit. Plein de concerts à venir, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence, il fallait répondre ce matin. 25 ans, oui, les Indes galantes de Rameau sont restés à l'affiche de l'Opéra de Paris 25 ans suite à sa création en 1735. Vous êtes super nombreux à nous écrire, ça nous fait plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes là, prêt à jouer. Notre prochaine question, comme chaque jour, c'est demain à 7h50. Bravo à vous. Ce matin, un cadeau dans votre boîte aux lettres. Patricia à Arles, Régis à Nancy ou encore Eric au Havre. Demain à 8h30, nous serons avec Léa Desandré depuis le Festival de Salzbourg où elle est actuellement pour son rôle de Despina dans Così fan tutte. Merci aux attachés de production, Valentin Carpentier, Lise Lejeune, Taïsia Froidure à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Stéphane Poitvin et Frédéric Kiefer. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve demain à 7h30 en pleine forme et tout de suite la programmation musicale de Julien Hanck. Bonjour Julien.
Bonjour Gabriel.
Allez, posez-moi une question, à vous.
Ouh là là, quel âge avez-vous ?
41 ans.
Très bien.
Bon, et vous dans votre programme, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Aujourd'hui, nous parlons de Mendelssohn, Rachmaninoff et puis surtout de Schnittke.
Très bien, bon, demain vous ne posez pas de questions.
Très bien,
bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.